1932, pour la deuxième fois de l'histoire, les Jeux Olympiques ont lieu aux États-Unis d'Amérique. Après Saint-Louis en 1904, c'est Los Angeles qui accueille les athlètes dans cette lointaine Californie. Entre les Jeux d'Amsterdam de 1928 et ceux de Los Angeles de 1932, l'atmosphère du monde a bien changé. Après les années folles, rythmées par les joies du spectacle et du music-hall sur fond de croissance économique effrénée, patatras. Tout s'écroule le jeudi 24 octobre 1929 avec le fameux krach boursier de Wall Street qui entraîne le monde entier dans la Grande Dépression. Autrement dit, les États-Unis qui accueillent les Jeux sont en crise. Alors qu'évidemment, quand ils avaient porté leur candidature, ce n'était pas prévu. Pourtant, ceux qui participeront ou assisteront aux Jeux Olympiques de Los Angeles en auront plein les yeux. Le rêve américain se matérialise devant eux. Malgré la crise, la presse internationale s'extasie à l'image du futur patron du Tour de France, Jacques Godet, alors journaliste à l'Auto, l'ancêtre de l'équipe. Il décrit le faste des infrastructures californiennes, notamment le village olympique. On est loin des baraquements des Jeux de Paris 1924. Ce village a été conçu comme une petite ville, isolée de l'extérieur, composé de confortables maisonnettes au milieu de la nature avec poste, banque, pressing, salon de coiffure et sauna. C'est clair, les Américains savent y faire. La cérémonie d'ouverture en jette, avec 300 musiciens et dans l'assistance des stars de Hollywood tout proches, comme Gary Cooper, Buster Keaton et Charlie Chaplin. Le cinéma qui est en pleine révolution avec l'avènement du parlant et les archives des Jeux deviennent elles aussi sonores.
Of the President of the United States, I proclaim open the Olympic Games of Los Angeles.
C'est le vice-président des États-Unis que l'on vient d'entendre, le républicain Charles Curtis, proclamant l'ouverture des Jeux au nom du président Herbert Hoover. C'est la fête, il y a du monde, mais les athlètes sont nettement moins nombreux qu'à Amsterdam 4 ans plus tôt. 1332 au lieu de 2883, faites le compte, ça fait moins de la moitié. On l'a dit, c'est la crise. Et pour les participants venus d'Europe, qui sont clairement majoritaires à l'époque, le voyage est bien long. Comment va-t-on à Los Angeles en 1932? Eh bien, il y a d'abord le bateau pour traverser l'Atlantique. Et une fois à New York, go west, en train. Bref, en tout, comptez deux semaines. C'est tout, sauf reposant. Avant d'affronter les redoutables compétiteurs américains qui règnent en maître dans presque toutes les disciplines et qui, une fois encore, vont largement l'emporter sur tout le monde avec 103 médailles. C'est trois fois plus que le deuxième pays classé, l'Italie, qui devance la France troisième. Jamais les Italiens n'avaient obtenu un tel résultat aux Jeux Olympiques. Avec 36 médailles, l'Italie triomphe, et particulièrement son duce, Benito Mussolini, qui voit dans le sport un outil de propagande au service de son impérialisme, l'homo sportivus. L'homme nouveau du fascisme, qui veut faire pénétrer la pratique sportive dans le cœur, dans la conscience et dans l'esprit des Italiens, comme on peut le lire dans les revues fascistes de l'époque. Le comité olympique italien est désormais au service du régime et annonce ce qui aura lieu plus tard en Union soviétique et bientôt en Allemagne, où des élections législatives ont lieu au moment précis où s'ouvrent les Jeux de Los Angeles. Pour la première fois, le parti nazi d'Adolf Hitler arrive en tête avec 37%. La suite au plan olympique, ce seront les Jeux de Berlin 1936, mais ça, c'est pour l'épisode suivant. Revenons à ces Jeux de 1932. Que faut-il en retenir? D'abord, c'est à Los Angeles qu'est inaugurée la tradition des podiums, avec la remise des médailles et l'hymne national joué en l'honneur du vainqueur. Mais il n'y aura pas de Brabanson joué à Los Angeles. Aucun titre olympique pour la Belgique. Pire encore, aucune médaille pour les Belges, ce qui n'était jamais arrivé et ce qui n'arrivera jamais plus, en tout cas jusqu'à ce jour. Los Angeles fut plutôt un mirage qu'un rêve californien pour la délégation belge. Ensuite, ces Jeux de 1932 voient l'apparition d'une grande nouveauté technologique, la photo finish et le chronométrage au centième de seconde. C'est ce qui va permettre de départager en finale du 100 mètres les deux Américains, Eddie Tollan et Ralph Metcalfe. À l'époque, on tendait un fil sur la ligne d'arrivée. Ils le cassent ensemble, mais ce que l'œil humain ne peut voir, la technologie va l'établir. Tollan reçoit la médaille d'or en même temps qu'un nouveau record du monde en 10 secondes 3. En escrime par contre, on n'en est pas encore à la touche électronique et il faut s'en remettre aux juges qui détectent les touches et qui les comptent. En finale féminine du fleuret, la Britannique Judy Guinness est déclarée vainqueur. Mais voilà qu'elle s'avance vers les juges et leur dit « Vous avez oublié deux touches à mon adversaire, j'ai bien senti qu'elle faisait mouche. » La médaille d'or lui échappe donc par ce qui constitue sans doute le plus grand prix du fair play. Ou pour le dire autrement, le plus grand gentleman de l'histoire olympique. Fut-il ça?